Croire en Dieu, n'est-ce pas une attitude totalement obsolète ? Cinq objections reviennent souvent dans les discours que tiennent les personnes qui aiment se moquer de ceux qui osent encore croire aujourd'hui à l'existence d'un Dieu. Premièrement, comment être sûr de sa foi alors que personne n'a jamais vu Dieu ? Eh bien, nous croyons tous à des réalités dont nous ne pourrons jamais vérifier expérimentalement l'existence, mais auxquelles nous accordons néanmoins une grande importance. Je n'ai jamais vu l'âme d'un enfant, mais j'en vois la manifestation à travers son sourire. Je ne vois pas la conscience morale de mon voisin, mais je suis sûr qu'il pense, comme moi, qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. L'amour n'est pas davantage visible à l'œil nu. Il ne se manifeste pas par des preuves scientifiquement contrôlables, mais par des signes qui ne trompent pas, même si, hélas, nous ne disposons pas de signes infaillibles que cet amour existera encore dans quelques années. Deuxième objection, pourquoi vouloir convertir à sa foi des personnes qui en professent une autre ? Eh bien, quand des chrétiens parlent évangéliser des personnes qui ne partagent pas leur foi, ils ne les méprisent absolument pas. Ils reconnaissent sans difficulté que leurs idées sont souvent fort justes et qu'elles font de très belles choses. Mais quand on pense avoir de bonnes raisons de croire que le Fils de Dieu en personne est venu, à un moment précis de l'histoire, nous révéler des choses essentielles sur sa vie intime et son dessein d'amour sur les hommes, on a envie de faire connaître cette bonne nouvelle au monde entier. Le missionnaire chrétien ne prétend pas être plus intelligent que les Esquimaux auxquels il s'adresse, mais il pense leur rendre service en leur partageant la bonne nouvelle qu'il a lui-même reçue de missionnaire venu jadis de l'Asie pour évangéliser la Gaule. Troisième objection que l'on fait souvent, croire en Dieu, n'est-ce pas une façon de se rassurer ? Il est évident qu'en découvrant l'existence d'un Dieu qui ne cesse de le créer et de l'aimer, le croyant éprouve un immense soulagement. Il n'est plus seul au monde. Encore faut-il qu'il ait des raisons d'y croire. Il ne suffit pas qu'une conviction soit merveilleuse pour qu'elle soit vraie. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit « Voyez comme ce que je vous dis est formidable ». Les miracles étonnants qu'il a faits et qu'il fait encore aujourd'hui font partie de ces signes dont nous avons besoin pour croire. Quatrième réflexion, quatrième objection. J'ai appris à ne dépendre que de moi-même. Ce n'est pas pour me mettre à dépendre d'un Dieu. Eh bien, réfléchissez. Nous dépendons tous d'autrui. Nos parents nous ont donné la vie. Et combien de personnes nous ont aidés à devenir ce que nous sommes ? Personnellement, je ne me sens pas du tout humilié de leur manifester ma reconnaissance. C'est avec un tel amour qu'ils m'ont donné, et souvent à leur insu, la somme énorme de sourires, d'exemples, de conseils et de connaissances qui m'ont structuré. Eh bien, de la même manière, en découvrant un jour que mon âme, mon corps, tout ce qui m'entoure, me sont donnés avec beaucoup d'amour par un Créateur, je suis tout heureux de l'en remercier. Et quand je réalise que j'ai aussi besoin de sa grâce, je ne vis pas cette dépendance comme une aliénation, mais comme un immense bonheur. Autre objection, dernière objection, souvent entendue, on n'a pas besoin de religion pour vivre. Il vaut même mieux ne pas en avoir, car trop souvent, elle a poussé les hommes à se battre. Eh bien, un jour ou l'autre, ne serait-ce qu'à l'occasion de la mort d'un proche, les hommes s'interrogent. Que deviennent nos défunts ? À quoi bon vivre s'il ne reste absolument rien de tout ce que nous faisons sur terre ? À quoi bon travailler à des lendemains qui chantent, si ces lendemains périssent à leur tour ? Suffit-il pour être heureux d'avoir les moyens de vivre ? Ne faut-il pas avoir aussi des raisons de vivre et de mourir ? Mais il est évident qu'il est déplorable que des convictions religieuses puissent dégénérer en fanatisme. Trop souvent, des croyants, y compris des chrétiens, se sont imaginés faire plaisir à leur Dieu en forçant tout le monde à penser comme eux, ou même en éliminant ceux qui s'opposaient à l'expansion de leur religion. Commettre de tels crimes au nom de Dieu, c'est faire absolument le contraire de ce qu'il attend de ses enfants.